Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous être rendus si nombreux à l'invitation de la librairie Mola. Et de Franck Dugravier, vous permettrez, docteur, que je ne vous appelle pas docteur dans ce cadre-là, puisqu'après tout, nous ne sommes pas en consultation, quoique l'avenir nous le dira. Mais ce n'est pas au docteur, mais à l'auteur que j'aurai le plaisir de m'adresser ce soir. Je précise que je m'appelle Olivier Monique, je suis journaliste littéraire à Sud-Ouest, à Livre Hebdo et au Figaro Magazine. Voilà, la présentation rapide étant faite, on va rester dans le contentement de soi. Normalement, je ne devrais pas être là, parce que ce n'est pas du tout mon métier. Nous sommes là dans des champs que je n'ai pas l'habitude d'explorer, d'arpenter. Sauf qu'en fait, si. Quand Franck Dugravier a eu la gentillesse de me proposer d'animer cette rencontre, là, ma première réaction a été de in petto, puisque je ne lui ai pas répondu tout de suite, de me dire non, parce qu'a priori, ce n'est pas mon affaire. La deuxième, c'est de me souvenir qu'on avait déjà eu une rencontre ensemble il y a bien 10 ans, et que le seul fait que je m'en souvienne prouve que ça s'était plutôt bien passé et que je pouvais envisager que nous en ayons une deuxième. La troisième qui m'a absolument convaincu de répondre favorablement à sa demande, c'est la lecture du livre. Pardon, on aurait dû commencer par ça, c'est peut-être un truisme introductif, mais je crois qu'il faut le dire. C'est-à-dire que je ne lis pas de livres de psy, tout en me réjouissant que ça existe, parce que ça fait les affaires des éditeurs et ça permet de publier des livres de littérature générale qui se vendent beaucoup moins bien dans les mêmes maisons d'édition. Donc, mais a priori, je n'en lis pas. Mais là, je dois dire, et je suis sincère, qu'il y a dans ce livre, je pense notamment, mais vraiment pas que, hein. Je pense notamment au chapitre introductif qui est une espèce de rosebud du livre tout entier, on va y revenir. Il y a dans ce livre des qualités d'écriture, je ne voudrais pas donner l'impression de dispenser mes bons points du haut d'une chaire, mais s'il y a une chose que je réclame d'être, c'est d'être un lecteur. Et voilà, il y a une vraie écriture derrière et dedans ce livre, et c'est ce qui m'a, dans un premier temps, le plus intéressé. Ensuite, ce qui a pu m'intéresser, c'est ce qui intéresse chacun et chacune d'entre nous, pour peu que nous connaissions dans la vie des parents, des enfants, des grands-parents, des neveux, des nièces, des puinés, que sais-je encore. On va y revenir. Donc, Franck Dugravier, en vous remerciant d'avoir répondu à la demande de la librairie Mola, aussi et peut-être d'abord. Première question de genèse, c'est un peu normal. Naissance de ce livre, qui en est véritablement un, qui n'est pas... n'est pas une simple opération commerciale, comme il y en a d'autres parfois. Quelle est la grâce? Vous savez, on dit que Claudel a rencontré la grâce derrière un pilier à Notre-Dame. Quel était votre pilier de Notre-Dame à vous?
Bonjour, merci tous d'être présents à cette présentation commune avec Olivier Monique. Je remercie aussi d'avoir accepté de venir. Je suis sensible à ce qu'il dit parce que le souci d'écriture, je l'ai eu dès le début, beaucoup, enfin, en parallèle de ce que j'avais envie de dire. Alors, je vais vous dire un peu comment les choses se sont passées pour répondre à cette question. Lorsqu'en 1974, je suis parti à la Martinique faire mon service militaire, j'avais prévu d'aborder la pédiatrie et d'apprendre à soigner des enfants. Je n'ai eu aucune place dans les services de pédiatrie. J'ai donc passé le plus clair de mon temps en deçà et au-delà de la barrière de corail, entre les poissons et les langoustes, que j'ai beaucoup aimé, plutôt avec du citron. C'est en septembre 1975 que pour la première fois j'ai vu un tout petit bébé dans un incubateur et ses parents paralysés par la peur. Je n'en menais pas large, moi non plus. On ne sait pas quoi faire de ses mains quand c'est ça. On ne sait pas si on peut mettre les mains dans l'incubateur, comment le toucher, quelle est la taille de ce bébé, comment appréhender son poids, sa réactivité. À la maternité de l'hôpital Pellegrin, j'étais le troisième après le docteur Seguin et le docteur Cazoran à pratiquer en salle d'accouchement des interventions pédiatriques. Avec les moyens du bord, c'est-à-dire une pédiatrie très balbutiante encore, dont les progrès techniques ensuite n'ont plus rien à voir avec ce que je faisais à l'époque. Mais cet aspect de la pédiatrie m'a fait réfléchir très tôt à ce que ça peut représenter que de devenir parent, à l'idée qu'il y a une dynamique familiale et que la pédiatrie peut être porteuse et garante de cette dynamique, ainsi qu'à la peur et au chagrin qui nous envahissent quand nos enfants vont mal. J'ai compris le caractère délétère pour les soins des relations déséquilibrées par l'asymétrie dans les consultations médicales. C'est quelque chose qui m'a toujours été très sensible. J'ai compris également ce que m'avait dit le professeur Sarri, qui était un de mes enseignants de médecine, qu'en médecine, il faut aller du livre au lit et du lit au livre. J'ai compris enfin que nos patients seront sans doute mieux soignés s'ils peuvent se dire, sans avoir à s'en poser la question, que nous pouvons nous aussi éprouver de la joie et de la peine, de l'espoir et de la lassitude, être envahis parfois par le doute et soucieux de notre maladresse. Et la maladresse, c'est une notion que je voudrais souligner, elle m'importe beaucoup parce que c'est quelque chose que les jeunes parents, quand je dis jeunes parents, je veux dire nouvellement parents, je ne parle pas d'âge, je parle d'une fonction, d'un état de sentiment. Et la maladresse, c'est quelque chose que les jeunes parents se reprochent beaucoup. Or, pour moi, c'est justement toujours le ferment de l'originalité de ce qu'ils vont pouvoir inventer avec leur bébé. C'est de leur maladresse que naîtront leurs réponses spontanées et une relation qui n'appartiendra qu'à eux et qui sera celle de la naissance de leur famille. Quand Gérard Jorland, qui est le directeur de publication de la maison Philippe Duval Édition, m'a demandé d'écrire un livre parce que je n'avais pas l'idée d'écrire, j'ai d'abord refusé, puis j'ai hésité, puis il m'a dit, il a ajouté, écrivez ce que vous voudrez, c'est votre musique qui m'intéresse. Alors j'étais piqué au vif, et j'ai écrit ma musique et même les paroles, et c'est aujourd'hui Olivier Mauny qui sera le maître de musique de cette histoire.
Bien, la première fois qu'on trouvera que j'ai le sens du rythme. Commençons, si vous le voulez bien, une fois de plus avec le commencement. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a dans votre livre un chapitre introductif, qui est un petit peu plus long peut-être que les autres, je ne sais pas, qui s'appelle le fourgon des postes, qui, à mon sens, ferait une très jolie petite nouvelle, peut-être personnelle, et qui a le mérite de placer tout de suite le livre sur le terrain, non pas de l'intime, mais tout au moins de l'entre-soi et du dévoilement de soi, ce qui, je trouve, est une forme de politesse, en l'occurrence faite au lecteur, que de s'attacher d'abord à ses propres secrets, mais ses propres petites affaires, pour mieux en révéler ce qu'elles peuvent avoir d'universel. Bref, tout ça est très confus et je nul doute que vous allez éclairer tout ça. Donc ce fourgon des postes ne signifie pas que vous avez fait médecine faute d'avoir pu être facteur, mais révèle une histoire beaucoup plus intime, beaucoup plus douloureuse peut-être.
Je vous en dirai quelques mots. Vous me parliez de politesse, oui, j'ai estimé logique de pouvoir parler de moi dans la mesure où je racontais aussi les histoires des autres. Les histoires des autres, je les ai dissimulées derrière des noms, des prénoms, des lieux et parfois des détails. Des détails qui permettent que les gens ne se reconnaissent pas ou qu'on ne les reconnaisse pas parce que plusieurs se reconnaîtront. Ceux qui peuvent se reconnaître, je leur ai dit et à part une histoire, je leur ai à tous lu ce qui les concernait pour avoir leur accord. Le fourgon des postes, c'est une histoire pour moi très émouvante qui est en deux parties. Quand j'étais petit, mon père est parti au sanatorium un beau jour, comme on dit. J'avais 4 ans à peu près, et il est parti un matin, il a disparu pendant 19 mois sans revenir. Et il nous envoyait des cadeaux, mon frère, ma sœur et moi, et notamment, il m'avait envoyé des Dinky Toys, parce que c'était l'époque des Dinky Toys. Il y avait aussi Nos Rêves et Solido, mais j'avais une particulière affection pour Dinky Toys. Et parmi ces Dinky Toys, il y avait le camion de lait avec des petits bidons, qui s'enlevait, qui se mettait, certains d'entre vous le connaissent sûrement, puis il y avait le fourgon des postes, qui pour moi a pris une valeur symbolique parce que c'était les postes qui amenaient du courrier à ma mère, et qui m'amenaient aussi du courrier, mais que je ne savais pas lire, c'était elle qui me le lisait. Et un jour, j'ai perdu le fourgon des postes. J'étais en vacances chez mes cousins à la campagne, dans le Loiret, et j'ai perdu le fourgon. Il devait être 4 heures l'après-midi, et à 6h30, je trépignais devant la jeune fille qui nous gardait, parce qu'il fallait repartir pour aller, c'était l'heure du bain. Mais je voulais retrouver ce fourgon que je n'ai jamais retrouvé. Et je dis dans le livre que quand je passe devant le bois des paillards, parce que ça s'appelle comme ça, si j'y repasse, je m'arrêterai pour le chercher à nouveau, et je sais que je ne le retrouverai pas, ou alors que je le trouverai rouillé, et peut-être mon enfance avec lui rouillée également. Et la deuxième partie que je mets en parallèle de celle-ci, après cette disparition, puis le retour de mon père, alors je vous passe mes troubles du sommeil, mon mal au ventre, la proximité que j'avais établie avec ma mère, puisque puisque je considérais à ce moment-là que je pouvais, qu'il était de mon devoir de remplacer mon père. On me disait dans ma famille, maintenant c'est toi l'homme de la famille, c'est toi le grand. Et on m'a redit ça un peu plus tard aussi. Donc j'ai pensé que...
Vous aviez 4 ans.
J'avais 4 ans, oui. J'ai pensé que son lit m'était ouvert. Il m'a été ouvert quelques fois. Vous lirez l'histoire. Et puis un jour, mon père est rentré et je n'ai plus eu place dans ce lit. Et j'ai plus eu mal au ventre, ça ne servait plus à rien du tout. Et par contre, ma mère me voit faire une petite lampe Vondère. C'était toute petite pile comme ça, en aluminium doré. Et j'allais la voir la nuit. Je lui ouvrais l'œil comme ça et je braquais la lampe dans son œil en lui disant « Maman, tu dors ?» Et elle me disait non. Et ça s'est très mal fini parce qu'un jour, mon père a... Enfin, elle a voulu allumer une lampe et mon père a reçu la lampe sur la tête. Elle s'est cassée et il a trouvé des moyens radicaux pour que je ne vienne plus les déranger la nuit. Mais moi, j'ai continué à avoir... Ou j'ai commencé à avoir peur du noir, puisque d'un seul coup, le noir s'imposait seul. Et que la lumière ne suffisait plus à l'éclairer, parce que comme je l'ai écrit, quand on éclaire le noir, il y a des bords. Et dans les bords, c'est encore plus noir. Donc on a encore plus peur. On ne peut pas être rassuré par la lumière. Sauf si c'est une lumière qui va vers la chambre des parents. Parce que là, on sait qu'il y a une continuité qui s'installe. Et ça, j'en ai usé et abusé. C'est ce qui m'a permis d'ailleurs, à tout sens du mot, de ne plus croire au Père Noël, puisque je les ai vus un jour préparer les cadeaux de Noël par l'interstice de la porte. Mais je disais tout à l'heure à Sophie, ma femme, que finalement, je pensais avoir été très angoissé quand j'étais petit. Elle m'a répondu que je l'étais encore. Et je me disais que j'avais toujours été soucieux des interstices, des raies de lumière, des portes ouvertes, des petits bruits qui rappelaient la proximité de quelque chose et de quelqu'un de rassurant. Alors pourquoi tout ça ? Deuxième partie, d'abord, c'est la mort de mon père, que j'ai aussi raconté dans cette histoire, puisqu'un jour, moi j'étais déjà parti, marié, et nous attendions un enfant, et un jour mon père est mort, il s'est tué en voiture. Et la circonstance de disparition a été à peu près, pour moi, comparable à celle que je viens de vous raconter, à savoir qu'on s'était vu peu de temps avant, on s'était parlé, l'avant-veille, mais on n'avait pas pensé qu'on se reverrait plus. Donc on ne s'était pas dit les choses qu'on aurait pu se dire pour se dire au revoir, il n'y a pas eu de revoir. Très longtemps, je suis resté très, très mal de cette mort, comme ça, sans départ, sans au revoir, sans aucun mot, sans regard du départ. Et il a fallu que j'atteigne l'âge, le 22 juin 1998, auquel très exactement il était mort, pour que je me rende compte que j'avais gagné une autonomie et une liberté, et en même temps, j'avais plus de protection. Jusqu'alors, je vivais protégé par la possibilité d'identification à une expérience. Et cette expérience disparaissait, il allait falloir défricher le terrain. Et en même temps, c'était une expérience vive, nouvelle et intéressante. Pourquoi j'ai commencé par ça ? Parce que ça me paraissait se mettre en parallèle avec les histoires que j'entends, que je vis avec mes patients, dont beaucoup sont ici, qui ont finalement écrit ce livre avec moi. Et comme je le disais à Olivier tout à l'heure, ça me paraissait être une honnêteté fondamentale que de mettre ces parallèles qui s'imposent dans ma tête sous la forme de correspondances. Vous connaissez le sonnet de Baudelaire, les correspondances. Et c'est un très beau sonnet. Et ça sonnait, hein, oui. Et le dernier vers, c'est « Les parfums, les couleurs et les sons se répondent ». Et ça m'impressionne beaucoup de pouvoir vous dire ça, que ces correspondances sont pour moi un élément très important de mon travail, qui situe mon travail dans l'axe de ma vie et ma vie dans l'axe de mon travail, et non pas une occupation professionnelle à laquelle je me livre pour m'en dégager ensuite.
Alors je reste dans ce chapitre introductif, quelques lignes si vous permettez, ce fourgon des postes. J'apprenais des mots nouveaux. Ils intégraient tout naturellement mon vocabulaire. Tubar, caverne, sana, toraco, sans-le-mose, plateau d'assis. Je les utilisais comme un vocabulaire courant. Pour moi, ces mots définissaient mon père. Non, pas lui, quelque chose de lui et de ce qu'il faisait. Par exemple, comme on dit « Papa est au travail », moi je disais « Papa est au sana ». Je crois que j'en étais fier. J'étais plus fier qu'inquiet, en tout cas. Si quelqu'un m'avait demandé ce qu'il faisait comme travail, j'aurais pu répondre « Tubar ». Ces mots nouveaux n'expliquaient pas un état, ils ne désignaient pas non plus des endroits. Ils expliquaient mon père, ils parlaient de lui, et ça me le rendait familier, un peu plus près de nous, de moi. Et moi, je crois que ça, ça définit tout le livre qui suit, non pas tant pour l'histoire du père, que vous venez de nous révéler plus amplement, que pour l'histoire de cette espèce de terrifiante, fascinante, bienheureuse en même temps, fluidité des mots. Et en gros, cette bonne vieille idée selon laquelle ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, vous voyez à quoi je veux en venir. Et je crois vraiment que tout le livre est une tentative de circoncire le champ des mots. Ce qui d'ailleurs est une définition possible de la littérature, mais on y reviendra.
Alors je dois vous dire que j'ai travaillé d'arrache-pied quand même. Hein. Parce que je voulais que ce livre soit écrit. Je n'avais aucune intention, je vous l'ai dit, de l'écrire avant qu'on me le demande. Et je n'avais pas l'intention de faire un exposé médical. Ce n'est pas un livre de médecine. J'ai expurgé tous les mots médicaux. Je crois qu'il n'en reste pas. J'ai employé des mots simples. Parce que depuis longtemps, j'ai eu envie de sortir du vocabulaire courant pour exprimer les choses en médecine avec mes patients. Par exemple, dire à quelqu'un qu'on sait qu'il ressent une vive souffrance, psychique ou organique ou somatique, c'est une chose. Mais retrouver les mots du commun pour dire qu'on, pour parler du chagrin, pour parler de la peine, pour parler du souci, des soucis, nous fait sortir de cette asymétrie de relation qui me paraît conditionner l'avortement du soin, si je puis dire. C'est-à-dire que, à partir du moment où on récupère la vedette, même fût-ce une vedette vocabulaire, le soin n'existe plus que dans la soumission de celui qui se trouve contraint de l'accepter. Voilà ce que je pense. Alors que, si, prenons l'exemple, si nous devons, pédiatre, c'est ma base de travail, annoncer quelque chose de très douloureux à quelqu'un, ça m'est arrivé dans les maternités, très souvent, avant la période des amniosynthèses, d'annoncer une trisomie 21, qui était courante à l'époque, où j'ai commencé la pédiatrie pendant les 10 ou 15 ans qui ont suivi. Eh bien, voyez-vous, je me suis trouvé un soir de Noël, à 1h du matin, à l'annoncer une femme dont c'était le premier enfant, que son enfant était mongolien. Et vous comprendrez que c'était particulièrement dur. Pas plus que si ça avait été le 2 ou le 3 ou le 4 janvier. Et pour elle, finalement, c'était la même chose, mais symboliquement, les choses avaient un poids différent. Et je me suis aperçu à plusieurs reprises que les annonces de choses difficiles passent mieux, sont mieux comprises, laissent plus de champ à la compréhension si on prend le temps de s'asseoir. On ne fait pas ces annonces debout pour partir après. On dit des mots, on parle avec les gens, on accepte l'émotion que ça suscite chez nous. C'est difficile au début, parce que dans notre métier, on se défend de l'émotion bien souvent. Mais si on accepte cette émotion et si elle fait partie de ce qu'on dit, alors il y a peut-être un espoir que cette peine leur devienne supportable et qu'on puisse l'aménager avec eux. C'est pourquoi le choix des mots dans ce livre a été pour moi un vrai travail de traque. J'ai fait une traque du vocabulaire, une traque de la syntaxe et une traque de la mise en forme. Ceux qui ont lu le livre ont pu le voir, ceux qui le liront s'en apercevront. La forme de ce premier chapitre est une forme délibérément syncopée. C'est-à-dire que ce sont des phrases courtes qui passent à la ligne les unes après les autres, parce que ça me paraissait correspondre, dans la mémoire que j'en avais, à ce que pouvait être ma pensée d'enfant et à ce que peut être la pensée d'un enfant telle que je l'imagine, puisque ce n'est que projectif. Mais je le dis à un moment dans le livre, je ne sais pas, mais dans la vidéo que j'ai enregistrée pour Mola ici, je dis que dans mon travail, dans la pédiatrie, et Winnicott l'avait dit, il y a un moment d'identification, un moment où l'identification à la personne que l'on soigne fait que quelque chose se passe. Vous savez, je ne sais pas si vous vous souvenez de... Comment il s'appelle ce film de Wenders, là ? Les anges, là.
Le ciel au-dessus de...
Les ailes du désir. À un moment, Colombo, puisque c'est Peter Falk, il est devant une baraque à frites, et puis il parle avec un ange, mais que le type qui fabrique les frites ne voit pas, donc il ne comprend pas du tout. Et puis il lui dit, compagnero, Et il lui serre la main dans l'air pour celui qui tient la baraque à frites, mais pour lui, c'est une réalité. Mais il y a quelque chose de ça dans les identifications. Il y a une façon de dire à un petit bébé, un bref instant, qu'on est comme lui, qu'il est comme nous, qu'il y a quelque chose de commun qui nous unit brièvement et qui donne un corps à cette consultation. Et ça, je peux vous dire que je pense que les parents en sont aussi bénéficiaires, à condition qu'on ne se l'approprie pas comme un succès personnel, mais qu'on en fasse un instrument de ce qu'on va transmettre, de ce qu'on va leur passer.
Alors, on va pas faire toute la rencontre là-dessus, mais aussi pour rester sur cette attention portée aux mots, portée au style, à l'écriture, une petite chose que je trouve susceptible d'aérer le texte, de lui fournir des points de vue différents peut-être, c'est la façon que vous avez de faire assez fréquemment référence à tel ou tel texte issu du champ de la littérature. Je pense à Philippe Roth, je pense à... Comment il s'appelle ? Jeannery, c'est ça ?
Jeannery, oui.
C'est les deux noms qui me viennent à l'esprit immédiatement. Et puis la façon dont chaque chapitre est souvent introduit par une citation tirée d'une œuvre du champ, là aussi, de la littérature générale. Ça s'est imposé tout de suite, ça vous est apparu comme un contrepoint, puisqu'on parlait de musique tout à l'heure, un contrepoint nécessaire ?
C'est les idées qui me venaient au fur et à mesure de ce que j'écrivais, parce que vous avez vu qu'il y a des citations qui sont des citations littéraires, ou des citations de bouquins de Winnicott, mais il y a aussi une chanson d'Alban de la Simone,
oui, c'est vrai.
France Gall, Herman Sermitz avec Nomi Today, un traité des champignons, un petit compte-rendu d'un traité de traversée des canyons qui est écrit par un de mes amis espagnols, et aussi Henri Michaud qui dit que c'est Truffaut qui dit, pour savoir si les hommes peuvent donner le sein, il dit, si j'avais des seins, je les caresserais toute la journée. Mais je crois que je peux dire à peu près la même chose.
Juste une parenthèse psychanalytique forte, c'est que vous venez de confondre Truffaut et Michaud, qui ont la caractéristique d'être morts le même jour.
Le même jour. 3 mars 83, non ?
Oui, absolument. Revenons au livre, si vous le voulez bien. Peut-être, je notais, vous disiez ça tout à l'heure, j'aimerais que vous explicitiez plus avant. Dans cette grande aventure-là d'être parent, grand-parent, enfant même, vous parliez, pour les parents tout au moins, de devoir de maladresse, de la nécessité de la maladresse, que je transforme moi en devoir de maladresse. Je trouve que c'est une jolie idée, d'abord très déculpabilisante. Tous les parents, j'en suis un, seront certainement d'accord, mais c'est aussi une jolie idée créatrice de plein de choses que ce devoir de maladresse.
Je crois que c'est ce qui fait le plus peur, parce que aux parents, aux mères en particulier. Alors, il faut me pardonner de parler essentiellement des mères, mais je rencontre beaucoup plus de mères que de pères. Je considère que ce n'est pas tout à fait la même position des uns et des autres vis-à-vis d'un enfant, que ce n'est pas non plus la même temporalité. Les choses ne viennent pas au même moment, elles ne viennent pas sous la même forme. Je dirais que les femmes, vous me pardonnez cette banalité, portent leur bébé dans leur ventre jusqu'à ce qu'elles vident leur ventre de ce bébé, et que pendant un temps, elles n'ont pas encore rempli leur tête de ce bébé, et que les hommes qui les accompagnent peuvent à ce moment-là les aider et venir en appui ou en portage. Ce sont des idées que j'aime bien. C'est comme ça que je vois la façon d'être père au début. Alors après, on pourra me disputer d'autres façons de l'être, et on pourra aussi me disputer des choses dont je suis absolument familier, qui est l'usurpation des fonctions. Je crois que j'ai été... je suis encore un père maternant, maternel. Mes enfants m'en ont plaisanté. Je crois avoir usurpé une part de la fonction maternelle à leur mère au début de leur vie. Je l'ai compris qu'après. Au début, c'était pour moi indispensable. Peut-être lié au fait que mon père était mort, qu'il était mort pendant la grossesse de notre premier enfant. Lié aussi au fait que... Je ne sais pas, je ne vous réponds pas directement, mais
non,
c'est une digression. Lié probablement au fait que lui-même n'avait pas eu de mère, puisque sa mère est morte quand il avait 4 ans, à la naissance de sa sœur, dont les enfants sont ici, et qu'il a eu pour souci, je crois, d'être pour nous un père maternant, un père-mère, de garantir quelque chose comme si ça devait risquer de se perdre, et donc d'être en même temps que notre père aussi quelque chose d'une mère. Ce qui pour moi a été très important parce que je regardais mes camarades de classe à l'époque. J'ai des souvenirs d'enfance extrêmement lointains. Je me souviens quasiment de tous les noms des enfants de la classe de 12e avec qui j'étais, des odeurs, des lumières. Enfin, c'est pourquoi j'ai pu écrire tout ça, parce que, et je pourrais écrire encore plus loin, j'ai des souvenirs qui remontent. Les odeurs et les lumières, ça ne se raconte pas, ça ne se prend pas en photo, donc ce n'est pas qu'on me les racontait, quoi. Et je me souviens de camarades de classe et de leur père, et je me souviens de pères pour qui j'avais pas le même sentiment en les regardant. J'avais l'impression de quelque chose de peut-être de plus rapide, de plus violent, de plus brutal, je sais pas. Et j'avais l'impression, en regardant mon père, de quelque chose d'assez tendre. Je me souviens de la façon qu'il avait de nous laver dans le bain, de nous toucher. Il nous tutoyait. Un jour, il a essayé de nous tutoyer, mais il a fallu qu'il m'engueule, et ça a foiré, quoi. Donc, il a été obligé de nous revouvoyer. Il m'appelait Jules aussi. Je ne me suis jamais appelé Jules, ni Baptiste, mais il m'appelait Jules ou Baptiste. C'était comme ça. Pourtant, il ne donnait pas de surnom. Mon grand-père donnait des surnoms, j'en parle dans le livre. Il m'appelait Chose. ou Machin. Et pourtant, j'avais avec lui une relation extrêmement particulière parce que...
C'est pas un surnom, c'est un verdict.
Il disait chose. Et j'étais habitué à ça, Marc, on était habitué. Et pourtant, j'avais avec lui une intimité extrêmement non dite, une extimité, extrêmement profonde, qui se traduisait par des gestes matériels. Et il m'emmenait pêcher les crevettes. Avec lui, il m'avait fabriqué une épuisette à ma taille et on partageait ça et on pêchait aussi des crabes et on rejetait le varec ensemble et après, on ne se disait pas ce qui était bon et pas bon, mais on le savait intuitivement. Et j'avais avec cet homme un lien que, depuis que je peux me formuler les choses, j'imaginais comme un lien de sang. Voilà ce que je dirais, un lien du sang, quelque chose d'une transmission qui ne se dit pas. À propos de transmission, on y reviendra peut-être tout à l'heure, je serais très curieux de parler tout à l'heure des relations des mères et des filles, qui est une chose qui a pour moi beaucoup d'importance dans ma consultation, et donc en même temps des grands-parents, mais on va y revenir tout à l'heure. Hein.
Alors, on va peut-être un peu parler des grands axes qui structurent ce livre. Il y en a un... qu'on retrouve sur chacun des grands chapitres d'une certaine manière, c'est vous savez, c'est, pardon pour la cuistrerie, hein, c'est Henry James qui disait que la littérature c'était un motif caché dans un tapis, c'est-à-dire qu'il y a, et il y a ça dans votre livre aussi. Par exemple, devenir père, c'est devenir père, mais c'est pas que devenir père, c'est un exemple, c'est aussi regarder sa femme devenir mère. Ce qui est effectivement assez vertigineux. Et devenir grand-mère, c'est devenir grand-mère, mais c'est regarder sa fille devenir mère à son tour. Donc il y a cette volonté de ne jamais s'en tenir, cette volonté dans votre pratique professionnelle, mais aussi là, en l'occurrence, dans votre pratique d'écriture, de ne jamais s'en tenir à ce que j'appellerais improprement les apparences, ou tout au moins au premier plan. En l'abordant pleinement.
Les apparences et le premier plan, c'est qu'avoir un enfant, c'est merveilleux, nous sommes tous d'accord. Ceci dit, dans l'intimité des consultations ou dans l'intimité des rencontres, on se rend compte tout à fait que c'est pas si merveilleux que ça, c'est pas si facile que ça. Au bout du compte, on est content, mais c'est pas fait que de bonheur et de facilité. Et si quelqu'un vous dit vraiment ce qu'il pense, il vous dit, comme j'avais envie de vous dire au bout de cette conférence, j'ai franchement la trouille. Voilà, c'est ça qu'ils disent. Et même, ils se disent, je ne sais pas si j'aurais pas mieux fait de faire autre chose. Et il y a aussi des gens qui vous disent, je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Il y a des femmes que vous verrez dans le... Ils disent, finalement, un enfant, bof. Non, je ne croyais pas que c'était comme ça. Non, si j'avais su, je ne l'aurais pas fait. Parce que, non, on n'a plus de temps. Puis, ça vous abîme, le ventre, les seins, tout ça. Après, bof, non, bah, non, je regrette finalement. Hein. Oh, bah, arrête de crier. Voilà comment ça se passe. Et alors, je reviens sur ce que vous disiez, devenir père, devenir mère. Parce que j'insiste beaucoup sur cette notion qu'avoir un enfant, c'est une chose, qui est une définition que je considérerais comme sociale. Oui, tu as un enfant. Est-ce que tu es contente d'avoir un enfant? Oui, il ressemble à qui? Bon, ben voilà, il ressemble à mon père, il ressemble à ma mère. Pas à ma belle-mère, pas à mon beau-père, c'est l'autre famille, on ne sait pas, on ne veut pas. Si, on veut quand même. Mais J'ai dit ça, ma belle-mère est ici. Et... Mais avoir un enfant, ce n'est pas la même chose que de devenir mère ou devenir père, ce qui fait référence à la trivialité intime de cette transformation, à la trivialité obligatoire de devoir accepter ce qui nous arrive avec la surprise que ça ne soit pas exactement comme on l'avait prévu, que ça ne soit à coup sûr pas comme on l'avait attendu. Alors, je me suis inspiré pour écrire la trame de ce livre d'un article que j'avais écrit pour un colloque d'un mouvement auquel je participe depuis 1992, qui s'appelle Médecine et Psychanalyse. C'était un colloque sur la place de la vie sexuelle dans la médecine. Et j'avais rédigé un article sur devenir mère et devenir père, mais surtout, voir sa femme devenir mère. Et cet article, je l'avais appelé « Si j'aurais su, j'aurais pas venu ». Vous connaissez cette phrase de Petit Gibus dans La guerre des boutons. Et je me dis que bien souvent, les pères, les mères, et parfois les parents ensemble, ils se disent « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Si on aurait su, on n'y serait pas allé. Et puis cet enfant, maintenant qu'il est entre nous, ben on ne peut plus être entre nous. » C'est ça qu'ils disent. On n'est plus entre nous. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Il y a un enfant entre nous, donc on n'est plus entre nous. C'est une drôle de présentation des choses. Hein. Et... Je reviens sur cette idée de voir sa femme devenir mère, parce que j'ai ajouté, pour ne pas mécontenter les lecteurs, hommes et femmes, et devenir père, mais c'est une autre histoire. Mais voir sa femme devenir mère, c'est une histoire très particulière. Alors, je commencerai au moment de la naissance, et vous remarquerez que je ne dis pas de l'accouchement. En ce sens que, il me semble préférable qu'un homme assiste à la naissance de son bébé qu'à l'accouchement de sa femme. Ça situe les positions... par rapport au corps de la femme, ça situe les positions par rapport à l'accoucheur, ça situe la position par rapport à la vie psychique de chacun. Et je raconte une histoire là, que j'avais vécue avec mon ami Lucien Jobert, à la maternité Bel Air, où j'ai travaillé, plusieurs d'entre vous y ont travaillé avec moi pendant 25 ans, où on a eu beaucoup d'aventures. Et un jour, je suis rentré dans la salle et je venais parce qu'on m'avait appelé pour voir ce bébé et j'ai vu entre les jambes écartées d'une femme la tête de l'accoucheur. Et ça m'a fait bizarre. J'entends qu'on dit « Poussez, madame, comme si vous alliez à la selle ». Et ça, j'ai toujours dit à Lucien que cette expression me gênait parce que je trouvais que c'était un amalgame douteux. Mais bon, je n'étais pas venu pour lui dire ça. Je le dis aujourd'hui et je le lui dis de façon posthume. Mais il le savait. Et tout d'un coup, je vois un homme en arrière, crispé sur son caméscope, au point que ses jointures étaient blanches, et qui filmait. Et tout d'un coup, j'ai pensé à mon fils aîné, Romain, qui, quand il était petit et qui voyait un truc à la télévision qui lui faisait peur, il faisait comme ça. Il mettait les mains comme si c'était des jumelles, comme pour mettre à distance cette scène qui lui faisait peur et pour, en même temps, ne pas la mettre à distance. Et cet homme faisait exactement la même chose. Je ne me suis senti pas très bien de le voir comme ça. Je suis allé le voir, je l'ai pris par le coude, je m'en souviens très bien. Et je lui ai dit, venez vous asseoir. Et je l'ai fait s'asseoir à la tête du lit, à côté de sa femme. Il a fermé les yeux, il s'est affaissé quelques instants, et il lui a pris la main, et il s'est mis à pleurer. Et elle a accouché, et c'est elle qui l'a réconforté. Et une autre femme m'a dit dans une consultation, une très jeune femme, que son mari venait de quitter. Ça arrive après les naissances des bébés, j'en parle abondamment. C'est une période fragile, c'est une période dangereuse pour les couples, c'est une période dangereuse pour les hommes, très dangereuse. Ils sont très seuls. Et ça, on le néglige, on ne le sait pas. Et elle m'a dit, mon mari est parti, mais je crois qu'il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Et je crois que oui, c'est vrai. Il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Je crois qu'il n'est pas bon... vous me pardonnerez la grossièreté du propos, de voir l'intérieur du ventre, l'intérieur du sexe, l'intérieur du corps de la femme avec qui on fait l'amour. On peut le voir dans la relation d'amour, mais pas dans cette relation-là, qui est une relation avec des médias et avec les excrétions du corps, des émissions, des bruits, des spectacles qui ne sont pas ceux de l'amour, et dans la... le fait que ce soit un bébé qui arrive doit venir sublimer le travail du corps lui-même, qui n'est pas très facile pour un homme, pour un homme qui n'est pas habitué, mais c'est même pas ça, qui n'est pas facile pour un homme tout court quand c'est la femme qu'il aime, voilà ce que je dirais.
Alors, autre motif caché dans le tapis, pour reprendre ma paraphrase jamesienne, est-ce que vous... On ne parle pas que... Finalement, je vais revenir au titre. Le titre, c'est « Bébés, parents et grands-parents, des rencontres inattendues ». On va parler de caractère de rencontre et du caractère inattendu. Pardon de rester vraiment très au ras des pâquerettes, c'est le cas de le dire. Mais parlons des grands-parents et parlons de ces grands-mères qui ont à la fois la joie de devenir grand-mère et puis le trouble de voir... leur fille, leur propre fille, le sang de leur sang, accéder à ce statut dont elles avaient jusqu'alors l'exclusivité d'être mère. Et c'est un trouble qui n'est pas de même nature que, par exemple, un grand-père qui voit son fils devenir père. Évidemment, ce n'est pas tout à fait la même chose. Toute chose n'est pas comparable.
Je ne crois pas. Oui, ce n'est pas pareil. Alors, je vais récupérer la vedette une minute avant de répondre directement à cette question-là. Quand ma fille, qui est ma troisième enfant, j'ai deux garçons, une fille, était enceinte et qu'elle était proche d'accoucher, c'était il y a 20 mois, j'ai éprouvé le besoin, à la fin du mois de juillet, elle habite Paris, de partir une demi-journée pour la voir. Pour la voir enceinte, non pas enceinte, mais encore un peu mon enfant, voilà. Avant qu'elle soit mère à son tour et que les relations soient totalement changées par la présence de cette petite fille, Pénélope, qui est arrivée depuis. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je dis, mais on fait rien, je suis juste venue te voir. Je voulais juste te voir une dernière fois, ma fille, et seulement ma fille avant d'être mère. Voilà. Donc, si vous voulez, mais quand mes fils ont eu des enfants, je m'excuse de me livrer comme ça et devant eux en plus, mais ça fait partie de mon livre, donc je peux me permettre cette... livraison d'intimité que je prends comme une marque de confiance que je vous fais. Quoi. Quand mes filles ont eu des enfants et que, avec leur conjointe, c'était pas du tout pareil, c'était pas tout à fait la même chose. Qui plus est, ils ont eu chacun un garçon en premier. C'était pour moi dans la tradition de ce que je pouvais reconnaître, de ce dans quoi je me reconnaissais, de ce qui me rassurait ou ne m'inquiétait pas. Et voir ma fille, la fille de ma femme, avoir une fille, c'était pour moi une expérience très particulière. Et je savais que, et c'est à ce titre-là que je me suis intéressé beaucoup à ce que ça pouvait être pour une femme de voir sa fille devenir mère, je savais que pour ma femme, il était essentiel d'avoir une fille, de pouvoir transmettre quelque chose ou partager quelque chose. Si bien que j'en suis maintenant un peu privé parfois, parce que j'ai parfois du mal à la voir avec moi. Et j'avais pu voir que dans cette famille, ma belle famille, où il y a beaucoup de sœurs, beaucoup de filles et de garçons, la présence des femmes, la prévalence des femmes dans les décisions, la connivence et les fous rires, le partage des intimités qu'on ne partage avec personne d'autre, avait un sens particulier et essentiel. Et j'ai vu ça à plusieurs reprises. Au début, dans ma consultation, quand j'étais jeune pédiatre, j'étais peut-être fringant, je ne sais pas impatient, j'ai jamais été impatient dans mon travail. Mais je ne comprenais pas ce que venaient faire les grands-mères. Parce qu'elles avaient des discours variables et parfois elles récupéraient des choses dans une espèce d'affolement qui me faisait penser à une pivoine qui finit de vivre sa vie. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De cette espèce de d'efflorescence qui s'use avec des couleurs qui se fanent un peu. Donc j'avais un peu cette impression, je me disais mais qu'est-ce qu'elle fait là? Après j'ai compris après que la pivoine était une fleur merveilleuse et qu'elle le restait même en fanant, et j'ai accueilli les grand-mères avec beaucoup de plaisir à ma consultation. Et elles se sont mises à partager, je vieillissais, et quand je suis devenu grand-père à mon tour, il s'est créé là aussi des connivences de compagnie. Et je me suis mis à partager des choses avec ces grand-mères qui, deux ou trois fois, m'ont dit « Est-ce que je pourrais vous voir seule ?» Et j'ai reçu deux fois, trois fois, des grand-mères, différentes les unes des autres, de familles très différentes, qui m'ont dit leur désarroi sur un ton qui n'était pas celui de la séduction, qui était, ça aurait pu, Mais c'était pas ça. Non, mais ça aurait pu, quoi. Mais il y avait une façon de récupérer quelque chose de sa propre jeunesse en partageant quelque chose du passé avec moi, en me racontant un souvenir, en me disant combien c'était douloureux et en même temps merveilleux. L'une d'entre elles m'a dit « J'ai l'impression que d'assister à une initiation ». Et je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire par initiation. Et elle m'a dit, mais pour moi, c'est voir ma fille avoir un enfant. C'était pas de voir sa fille se marier, devenir femme, avoir ses règles, sa puberté, qui sont des moments très particuliers, où les femmes sont aussi parfois en difficulté. Parce que pour moi, l'adolescence, c'est aussi... la difficulté de l'adolescence, c'est aussi que c'est la fin de la nôtre. Hein. C'est pas que l'adolescence difficile de nos enfants, quoi. Et j'ai trouvé des femmes très, très sincères dans l'aveu du bouleversement qui s'opérait en elles, à un moment où elles sont obligées, comme on l'est tous obligés quand on a des petits-enfants, et à d'autres moments, d'aborder le changement de notre vieillissement, d'une certaine usure, de choses qui n'arriveront plus, du temps qu'on ne peut pas prendre à rebours. Moi, jusqu'à 50 ans, j'étais immortel. Immortel. J'ai pu en montagne prendre des risques inconsidérés, en mer prendre des risques inconsidérés en pêche sous-marine. Vous verrez dans mon livre, j'en dis quelques mots. Je partais tout seul au large pendant des heures et des heures. Je savais qu'il ne m'arriverait rien, j'étais immortel. Et puis un jour, je suis devenu mortel. Et c'est pas la mort de mon père qui m'a rendu mortel, c'est une prise de conscience brutale. Peut-être à partir du moment où j'ai dépassé l'âge auquel il était mort. Oui, quelque chose comme ça, j'avais pas loin de 50 ans. Et j'ai pu comprendre ce que ça pouvait représenter. Et ça me fait penser à autre chose qui fait un passage très, très important pour moi de mon livre, qui est le moment de la mort des mères. C'est-à-dire avoir un enfant quand sa mère n'est pas vivante. Et je dis une chose qui m'importe, je dis qu'il est important pour une femme que sa mère soit vivante lorsqu'elle accouche de sa fille ou de son enfant. Non pas qu'elle soit présente, mais qu'elle soit vivante, pour qu'elle puisse s'y référer, fût-ce dans la haine, mais qu'au moins elle puisse s'appuyer sur quelqu'un, sa mère, qui peut lui servir de modèle, qui peut être sa référence, ce qu'elle partagera parfois très volontiers, tout en s'effaçant, puisqu'elle ne se rendra jamais aussi présente qu'en sachant s'effacer. C'est pas donné à toutes. Bah non. Mais par contre, le désarroi des femmes dont la mère est morte, et surtout quand elle meurt dans les parages de l'accouchement, est quelque chose de phénoménal. Comme si d'un seul coup, elle se retrouvait monstrueusement orpheline. De plus avoir personne, de plus pouvoir être, ça c'est une chose que j'ai très envie de vous dire, de ne pas pouvoir être l'enfant de quelqu'un. Et dans ce livre, ce que j'ai écrit, et vous avez raison, parce que je crois que c'est ça le fin mot de l'histoire, enfin il me semble, enfin pour moi, ce qui me vient maintenant à l'esprit, c'est de dire qu'il est important, à certains moments de sa vie, des moments troublés, des moments troublants, de pouvoir être, ne serait-ce que quelques instants, ou de savoir qu'on peut être quelques instants l'enfant de quelqu'un. Même si ça n'arrive pas, savoir qu'on peut l'être. Que ce quelqu'un, votre mère, quelqu'un qui la remplace, ça arrive, puisse vous soutenir, que vous puissiez être en appui sur elle, sur lui, et vous y reposer. Et ça permet de faire face, notamment quand on vient d'avoir un bébé, aux difficultés identitaires que ça suscite et qui sont présentes chez tous. Quoi. C'est une nouvelle identité. Je ne sais pas si je vous ai répondu.
Enfin, non seulement vous avez répondu, mais vous avez ouvert là aussi, c'est le principe du livre d'ailleurs, le champ des possibles. Je ne comptais pas en parler tout de suite, mais vous m'offrez l'opportunité de le faire. Ça paraît là aussi être altruisme, mais finalement pas tant que ça. C'est fou comme cette histoire de vie, d'enfant qui paraît, apparaît, disparaît, est pleine de morts. Et à quel point se jouent là-dedans des transmissions difficiles. Enfin, ce n'est pas clair, mais c'est par définition pas clair. C'est fou comme ces histoires-là sont pleines de deuil futur, passé, et d'acceptation du deuil surtout.
Alors, je vais vous lire un tout petit passage du livre, parce que ça va répondre à ça. Mon petit-fils est né, alors je vais vous raconter deux histoires qui sont dans le livre. Un jour, ma belle-fille me téléphone et me dit « Je vous passe Simon, il a quelque chose de très important à vous demander. » Il était 21h du soir. Il me dit « Grand-père, quand on est mort, qu'est-ce qu'elles deviennent les petites graines qu'on a dans le zizi ?» Je lui ai expliqué que tant qu'on était vivant, elle servait à faire des bébés, mais qu'après, elle disparaissait avec nous et que peut-être à son tour, d'autres feraient avec leurs petites graines des enfants. Je ne sais pas si mon explication lui a suffi. Mais il y a 15 jours, j'étais à Paris, il a 13 ans, presque 13 ans. Il me dit « Grand-père, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu as peur de la mort ?» Alors je lui dis « Ouais, j'ai peur. Tu veux dire la mort en soi, est-ce que ça me fait peur ou ma mort ?» Est-ce que tu penses qu'elle est proche ? Et je lui ai dit, je vais te dire quelque chose d'autre. Et je lui ai lu ce passage-là. Il pleuvait à Montmartre. Sur sa demande, j'avais amené Simon visiter un musée. Il ne se souvenait pas de ça. Devant un tableau où figuraient des monstres, pensant à la musée, même si je n'étais pas très sûr de mon fait, je l'appelais. « Viens voir Simon, il y a des monstres. » Il me répondit sans se retourner qu'il ne voulait pas voir parce que ça lui faisait peur. « Pourquoi peur ? Parce que ça me fait penser à la mort. » Mais à la mort de qui ? D'abord à la mienne, répondit-il, et j'ai pas envie. Mais aussi je pense à celle des autres. Il se tourna à demi vers moi, il avait les larmes aux yeux, et me demanda, quand on est un grand-père, ça veut dire qu'on va être bientôt mort ? Alors j'ai regardé les monstres quelques instants, ils ne me faisaient pas peur parce que j'étais déjà grand. En plus, je savais qu'en réalité, ils ne pouvaient pas exister. Et je n'ai pas eu les larmes aux yeux parce que je les avais ravalées. Je lui ai dit que les enfants pouvaient mourir, bien sûr, mais que c'était très rare, et qu'ils ne mourraient donc pas avant très longtemps. Et son père non plus, car lui aussi était encore très jeune. J'ai d'abord répondu ça parce que je crois que ça faisait partie de sa question. Puis je lui ai expliqué que j'étais déjà un peu vieux, puisque j'étais le papa de son papa, et qu'un jour je mourrais, mais que ça ne serait pas tout de suite, parce que nous avions encore beaucoup de choses à faire ensemble, et que j'avais très envie que nous les fassions, toutes, et peut-être même d'autres. Après, je lui ai proposé d'aller manger des crêpes sur la place du Tertre, pour le goûter. Et nous n'avons pas reparlé de la mort ce jour-là, mais ça m'a fait bizarre quand tout à coup, en mangeant, j'ai pensé que le crêpe, c'est le tissu du deuil et des enterrements. Ouais. Oui, c'est vrai, il y a des histoires de mort tout le temps dans mon livre. La mort ne me quitte pas. Je demande souvent aux gens s'ils y pensent. Il y a des gens qui me disent « Non, jamais j'y pense, jamais, pas du tout. » Eh bien, moi, je vais vous dire, j'y pense tout le temps. Avec peur et sans peur, avec curiosité, avec appréhension de celle des gens que j'aime, que je crains beaucoup, de la mienne, du moment, des modalités. J'ai eu du mal, après la mort de mon père, à éprouver de la peine quand les gens mouraient parce que j'avais l'impression d'avoir épuisé le fond de la peine. D'avoir été au fond de ce qu'on peut ressentir et qu'après, la mort des autres avait pour moi, m'excuserai, moins de poids. Mon grand-père, toujours celui qui me menait à la pêche, j'en avais un autre qui était gentil, mais c'était pas pareil, c'était pas le même homme. Mon grand-père disait, hein, je l'ai entendu dire un jour d'un ami à lui qui était mort un peu plus âgé, il dit bon, après tout, il avait l'âge de faire un mort. J'avais trouvé cette expression assez étonnante. Je me suis demandé, quand il est mort, s'il pensait qu'il avait l'âge de faire un mort, parce que je pense qu'on peut le penser pour les autres, c'est plus difficile pour soi. Je ne sais pas quand... Mais oui, il y a un monsieur un jour qui était très âgé et qui était avec sa famille un dimanche à midi, puis il a déjeuné, puis il a fumé un cigare, qui était son habitude, bu un cognac et il a dit « Ben maintenant, c'est bien, je peux mourir. » Et puis il est mort. Voilà. Mais dans les transmissions et dans ce que Gérard Jordan avait marqué en quatrième de couverture, le bouleversement, il dit, les bouleversements en chaîne que produit la naissance d'un enfant, comme dans le jeu de taquin, chacun se trouve déplacé dans une autre case, laissant sa place à un autre peut faire place à un nouveau-né. Il est vrai qu'il y a un jeu de remplacement des uns par les autres. Et quand on me disait, tu es le grand de la famille, c'est toi qui maintenant est un homme, moi je voyais qu'une chose, j'étais le prochain mort, quoi. C'était ça qu'on me disait. Et ça me faisait penser au jeu de massacre. Vous connaissez le jeu de massacre ? Ce qu'il appelle le jeu du taquin, mais c'était dans les fêtes foraines qu'on nous mettait des tapis qui circulaient comme ça avec des figurines en bois. Puis nous, on en avait des balles de son et on jetait les balles de son pour faire tomber les figurines. Eh bien, j'avais l'impression d'être une de ces figurines. J'espérais qu'on allait me rater. J'espère encore qu'on va me rater longtemps, mais ça se rapproche. Et j'avais cette impression que le jeu de massacre était celui du remplacement.
Bien, on se tient au courant. je reviens au titre, si vous le permettez. Oui, Vous savez, dans Sud-Ouest, la rubrique qui nous sauve, c'est depuis toujours, hein, c'est le carnet. En fait, c'est quand même, je suis obligé de reconnaître que c'est de très loin la rubrique la plus lue du journal. Mais c'est vrai qu'on y apprend plein de choses, hein, objectivement. Bon, bref, je reviens au titre, si vous permettez, après cette joyeuse digression. Bébé, parents et grands-parents, des rencontres inattendues. C'est cet inattendu-là qui m'intéresse le plus et qui forme le corps même de votre livre. Cette façon dont la doxa a pu, enfin ce que Barthes appelait la doxa, a pu peut-être assigner des places à chacun, places auxquelles il ne se retrouve jamais vraiment à l'usage.
Alors,
comme si la réalité était toujours un léger décalage de ce qu'elle prétend être.
Il faut vous dire qu'en France, les éditeurs choisissent les titres des ouvrages. C'est une prérogative qu'ils se donnent et que j'ai beaucoup combattu pour pouvoir obtenir ce titre-là, qui n'était pas exactement ce que je voulais donner, mais qui finalement me va très bien. Donc on s'est mis d'accord et in extremis, on a trouvé ce titre. Et les poupées russes, qui sont sur la couverture, la jaquette, et qui sont des Matryoshka déformés, puisque ce sont les personnages du livre qui sont dedans. Ça m'a permis de penser que les rencontres, on rencontre son bébé, enfin on fait connaissance avec lui. Quand un bébé arrive, on ne le connaît pas. Et un petit garçon disait à ses parents, qui montraient leur amour pour leur deuxième enfant, mais enfin comment vous pouvez l'aimer? Vous ne le connaissiez même pas avant. Vous ne l'aviez jamais vu. Et il a raison. Il faut donc que les parents, ensemble d'une part, mais individuellement également, fassent connaissance avec ce bébé qui, pardonnez-moi, fait irruption dans leur vie. Irruption. Et il va falloir que chacun d'entre eux fasse connaissance avec ce qu'il est en train de devenir. Ça me fait penser à un de mes amis qui a eu un petit incident cardiaque récemment et qui comptait reprendre son travail. C'était un vendredi. On lui a posé des stents et puis il voulait reprendre son travail le lundi. Je lui ai dit, mais attends de faire connaissance avec cet autre que tu deviens. Ça l'a décidé à ne pas reprendre son travail tout de suite. Eh bien, c'est pareil, on devient cet autre-là. Mais on devient aussi l'autre pour l'autre. Combien d'hommes disent, si on les pousse un peu dans leur retranchement et si on est un peu seul avec eux, qu'ils ne connaissent pas la femme qui est maintenant la mère de leur bébé? Elle est pour eux une inconnue et qu'il faut faire à nouveau connaissance. Parfois comme si on ne s'était jamais rencontré. En tout cas, cette femme-là, la mère de ce bébé, ils ne la connaissent pas, ils ne l'ont jamais rencontrée. De mère jusqu'alors, ils ne connaissaient que la leur en général. Mais il y a une autre chose qui m'importe. C'est que ce qui est inattendu, c'est que les gens qui ont un bébé, hommes et femmes, vont se rencontrer individuellement, intimement, sur des modes qu'ils ne soupçonnaient pas auparavant. C'est comme ça qu'une femme m'a dit un jour, on vient pour son bébé et en fait on finit par parler de soi. Alors je crois que j'ai laissé ce petit passage, je crois que j'ai la... Oui, c'est bien ça. Clémence a d'abord parlé de son bébé, mais l'émotion... C'est une Clémence d'emprunt. L'émotion se faisait pressante, alors par toute petite touche plus personnelle, elle s'est mise à parler d'elle. Elle en fut très surprise, même un peu troublée. C'est bien pour lui qu'elle était venue, elle en était sûre. En plus, il allait bien. Alors pourquoi, sans raison précise, éclater en sanglots? Elle est un peu confuse, un peu vexée aussi. Jamais elle n'aurait pensé. Un jour, elle m'a dit, on vient pour son bébé, on se retrouve à parler de soi. Mais dans le fond, elle se rend bien compte que les choses se sont mêlées, et emmêlées, jusqu'à ne plus pouvoir discerner ses préoccupations de celles de son bébé. C'est ainsi qu'elle a glissé presque imperceptiblement de lui à elle, et c'est comme ça que maintenant, sans pour autant le quitter, elle parle d'elle, intimement d'elle. Après quelques temps d'hésitation, Clémence s'est finalement laissée emporter. Ils ont inventé ensemble un nouveau langage entre corps et peau, entre peau et mots, une langue propre à leur nouveauté. Vous avez répondu ?
Vous avez parfaitement répondu. On arrive peu à peu au terme du temps qui était imparti à notre dialogue. Moi, j'aurais quand même une question nécessairement conclusive à vous poser. Est-ce que finalement, ce livre, qui était une expérience, hein, on l'a compris, c'est votre premier livre, Est-ce qu'à l'arrivée, vous avez l'impression que vous avez appris quelque chose de vous-même écrivant, finalement? Ou est-ce que non, cette surprise-là? Moi, j'ai la sensation qu'il a été écrit dans une certaine forme d'allégresse d'écriture. En tout cas, c'est l'impression qu'il donne à la lecture. Et j'ai l'impression qu'on ne sort pas, et je crois d'ailleurs qu'on ne sort pas nécessairement tout à fait indemne de l'écriture et de celle-là non plus.
En fait, quand j'étais en classe de terminale, terminale philosophique, on dit maintenant, on m'a dit c'est pas la peine de faire médecine. Et avec moi, Jean-François Debecq, mon ami, on a dit la même chose, parce qu'on était tous les deux philo, on nous a dit c'est pas la peine de faire médecine, vous n'y arriverez pas. Et on a fait médecine, on a bénéficié des aménagements de mai 68 pour passer notre première année, que peut-être on n'aurait jamais eu autrement, je ne sais pas. Enfin. Et du coup, on a fait médecine, on a passé l'internat. Et j'ai toujours eu la sensation que le bagage littéraire que j'avais acquis, dont j'avais vraiment un goût très profond et que j'ai gardé, dans un éclectisme délibéré, était pour moi une très grande richesse pour profiter de mon travail et je l'espère pour mes patients à cause des associations d'idées, des apports différents, de ce que ça peut ouvrir d'autre que la sélection mathématique à laquelle on confronte maintenant les jeunes étudiants déçus et désabusés par cette première année. Donc oui, c'était une fête. Oui, écrire ce livre était pour moi une fête littéraire, on va dire comme ça. Quant au bouleversement, oui, absolument. Ça a été pour moi la continuité, la continuation d'un travail, du travail d'analyse que j'ai fait pendant 11 ans. Pas de raison ni de m'en cacher ni de l'annoncer. À un moment de ma carrière de pédiatre, il m'était venu à l'esprit que, à force d'envoyer les gens chez les psychiatres, il fallait peut-être se poser la question de savoir pourquoi on n'y allait pas soi-même. Alors, ce n'était pas chez le psychiatre, c'était un psychanalyste à qui j'ai porté mon livre, bien que je ne l'ai pas rencontré depuis la fin de mon analyse. Et pendant ces 11 années, se sont jouées un certain nombre de choses dans ma vie qui persistent et dont j'espère encore faire bénéficier les gens qui me confient leurs enfants et qui me confient une part de leur vie. Et ce livre s'est inscrit dans une... Après qu'il m'ait été proposé, demandé par quelqu'un qui me dit m'avoir entendu parler et qui m'avait demandé d'écrire ça, il s'est inscrit dans une continuité dans les idées d'association et de correspondance. Enfin, pour moi, les correspondances et les associations sont des choses qui sont essentielles à la forme de ma pensée. Il s'est inscrit dans ça. C'est pour ça que tout naturellement, les souvenirs de mon enfance, et j'aurais pu faire une somme, et ce à quoi ça se lie dans mon travail, je n'ai pas de difficulté avec mes patients à livrer ces souvenirs ou à les comparer à quelque chose, à livrer quelque chose de moi, dans un parti qui maintenant... Enfin bon, je ne sais pas, tout le monde ne sera peut-être pas d'accord, mais c'est libéré de la part de séduction qui peut être en partie une défense, en partie une volonté, en partie une perversité, je ne sais pas, qui peut illustrer le début d'une carrière, mais qui, au fil du temps, n'est plus la même chose. Et quand je livre quelque chose de moi, c'est dans la réflexion du fait que ça me paraît pouvoir apporter quelque chose à la consultation que je suis en train de livrer, et non pas une forfanterie ou une récupération personnelle narcissique, abusive. Voilà.
Merci beaucoup. La différence entre la lecture et la psychanalyse, c'est que, ou du moins entre l'écriture et la psychanalyse, c'est que lorsque vous quittez l'analyse pour rentrer en écriture, effectivement, des choses, cette fois-ci, c'est l'analyste, c'est-à-dire vos lecteurs, qui vous payent, ce qui est donc un bon calcul de votre part, Franck Dugravier. Ça s'appelle Des rencontres inattendues. Je ne sais pas si nous en avons fait une analyse à la hauteur, mais c'est un vrai bon livre. C'est un vrai bon livre d'autofiction, comme on n'ose plus trop le dire aujourd'hui, mais sans les ornières déplaisantes de l'autofiction et avec une vraie, je ne sais pas si le terme vous paraîtra heureux, mais une vraie pudeur de l'entre-soi à laquelle je rends grâce. Merci beaucoup Franck Dugravier d'avoir répondu à notre invitation.